J'ai le plaisir d'être en compagnie de Fiona Gordon et de Dominique Abel, duo plus connu sous le nom d'Abel et Gordon, pour leur quatrième long métrage, Paris pieds nus, une comédie burlesque et un tantinet romantique aussi, qui sortira en Belgique le 15 mars. Fiona et Dominique, bonjour.
Bonjour.
Racontez-nous en quelques mots l'histoire de ce film et dites-nous ce qui vous a donné l'idée, l'envie, et ce qui vous a motivé à faire ce film.
Oh, l'histoire, ça serait une Canadienne bibliothécaire qui habite dans le Grand Nord, dans la neige, qui un jour reçoit une lettre de sa vieille tante. Et en gros, la lettre dit au secours, c'est une femme de 88 ans qui lui dit « j'ai besoin d'aide ». Elle réfléchit pas deux secondes, elle part pour Paris avec son sac à dos. Elle arrive à Paris et là, la tante a disparu. Et donc pendant deux jours, deux nuits, elle va chercher cette tante. Et elle va rencontrer en chemin un SDF qui tombe amoureux d'elle et qui va lui pourrir la vie, comme on dit, mais en fait qui va aussi se rendre utile.
Et l'idée ?
Oui, pour l'idée, on voulait un peu, pour notre quatrième film, revenir un petit peu à nos sources de duo. Et à la base, on voulait faire quelque chose d'ultra simple, presque un prétexte, pour qu'on puisse se balader dans Paris, être perdu et faire des bêtises et... Au final, c'était pas du tout ça, mais ça c'est l'idée de base.
Pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore votre cinéma, on pourrait dire qu'il s'inspire de l'univers clownesque de Pierre Hété, Jacques Tati, Charlie Chaplin et Buster Keaton, entre autres. Le burlesque est loin d'être un genre neuf. Pourtant, il se fait très rare au cinéma aujourd'hui. Votre film détonne par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. À votre avis, comment expliquez-vous cette désertion du burlesque au cinéma, alors qu'il est encore présent dans d'autres domaines? Je pense par exemple à la publicité ou à l'art contemporain, par exemple. Ouais. À votre avis, pourquoi cette tendance?
Parce que ça peut peut-être parce que ça coûte cher de faire du cinéma, contrairement à avant. Parce qu'avant, on pouvait faire, je crois, un peu du cinéma comme on fait une pièce de théâtre. Les gens, il n'y avait pas de salaire même, je crois au début, les gens étaient nourris et voilà. Et puis maintenant, il faut convaincre par écrit. Il faut convaincre par écrit pour avoir du financement. Et écrire un scénario burlesque, c'est possible, on le fait. Mais c'est pas nécessaire, c'est-à-dire pour le style, on pourrait très bien s'en passer. On pourrait travailler pendant deux ans sur une écriture physique, c'est-à-dire des impros, et puis affiner et arriver à ce qu'on a fait là. Mais non, il faut écrire un espèce de petit roman, et ça c'est le problème, c'est qu'à la lecture ça donne jamais grand-chose. J'ai lu justement des scénarios de Tati. Ben, c'est pas très gai, hein. C'est-à-dire c'est comme décrire la danse contemporaine, il a un pied devant, un pied derrière, etc. Et puis à la fin, les gens ils s'endorment. Et pourtant il faut ça, il faut que ce soit une trame très légère, qui aérée, mm-hmm. dans laquelle le jeu va pouvoir s'engouffrer et emporter le récit.
Oui, mais il y a quand même beaucoup de précision aussi dans votre... Enfin, en tout cas, dans votre dernier film, il y a beaucoup de précision au niveau des cadrages, au niveau des décors, ce qui implique probablement un grand repérage au niveau de la photographie. Et vous vous laissez aussi une marge à l'improvisation. Comment trouvez-vous l'équilibre entre ces deux pôles qui sont très, très éloignés?
C'est-à-dire qu'on écrit par improvisation, mais on n'écrit pas le jour du tournage. Tout ça se passe...
En amont.
Beaucoup en amont, on improvise, on retire des parties, on développe plus en fonction des impros. Et au moment du tournage, c'est plutôt très... Oui, comme vous dites, c'est très précis. Il n'y a pas beaucoup d'espace d'impro sur le tournage. Sauf quand, par exemple, dans le métro, on n'avait pas la possibilité d'aller répéter. Donc, c'était une grande inconnue qui est rare pour nous. Et là, on avait, je ne sais pas, un après-midi où on pouvait se balader et essayer de trouver nos cadres vite fait, et essayer de trouver des jeux, des choses intéressantes. Et on les a trouvés, malgré tout. Mais voilà, cette précision, ça demande du temps aussi. Ça demande le temps de réimproviser, réécrire, réimproviser, introduire des nouveaux personnages, des décors.
Sur les lieux aussi. On a toute une partie... minimaliste un peu dans des studios comme ça pour trouver le jeu physique, et puis après c'est remis en question tout ce qu'on... donc ça relance l'écriture déjà, et puis après on y va à Paris, et là ça change aussi beaucoup parce que on s'appuie sur les éléments physiques, sur les objets, cette statue, la tour Eiffel, Et c'est beaucoup, c'est des milliers de photos. Et puis c'est des essais avec notre équipe, nos chefs-op. Même avant le tournage, on y va, on discute finement des cadres et des couleurs et tout ça.
Oui, justement, en parlant de physique, votre cinéma est très, très physique. Vos personnages sont décalés, ils n'ont pas peur d'user de leur corps. Et on a parfois l'impression que vous nous dites, mais lâchez-vous, soyez plus libres. Un peu comme des enfants, un enfant qui apprend à marcher, qui tombe, mais qui oublie très très vite la douleur, qui reprend. Est-ce que c'est un petit peu ce que vous essayez de faire passer dans votre cinéma?
Bon, en tout cas,
cette forme d'anticonformisme.
Oui, c'est un éloge à l'anticonformisme aussi. Et puis le clown, il tombe et il se relève. Ça, c'est un petit peu la base de sa démarche. En faire rire, non pas en disant vous êtes idiot, mais en disant nous, on est idiot. Et peut-être vous identifiez à nous et nos bêtises. C'est pas tant un message qu'un quelque chose qui doit se passer par osmose vers le public. On vient d'un milieu de théâtre, on a fait beaucoup, beaucoup de spectacles. Et là, on a le public devant nous et on les contamine avec cette innocence et ces bêtises. Et on est là pour sentir qu'ils sont contaminés. Et puis, ils nous contaminent à leur tour avec leur rire. Et ça, c'est quelque chose qui est génial et qu'on voulait un petit peu importer dans le cinéma. C'est pas pour dire qu'on veut faire du théâtre au cinéma, mais on veut retrouver cette complicité avec le public, cette façon de raconter une histoire au cinéma.
Il y a beaucoup de gaieté, il y a beaucoup de joie, de couleurs, comme je le disais avant dans votre film. Et pourtant, ça ne vous empêche pas d'aborder certains sujets teintés d'une certaine gravité. Il y a vos personnages sont quand même très seuls aussi. Ils ont des moments de nostalgie. Est-ce que c'est une manière aussi de nous dire, de nous inviter à prendre de la distance par rapport à la gravité de certains sujets? Je pense notamment à la vieillesse que vous abordez très bien dans le film, et de le traiter avec une certaine forme de trivialité, d'humour, qui nous permet aussi de trouver de la joie, de la brillance, même dans l'expérience de la vie qui ne sont pas nécessairement heureuses.
Voilà, mais voilà, tu l'as dit, c'est ça qui... En fait, on aborde les thèmes qui nous touchent vraiment dans la vie, et ça en fait partie. On a un âge où nos parents, ils ont cet âge de notre personnage Martin, et c'est fragile, et à la fois c'est beau, c'est des gens qui ont une grande expérience, et puis qui retrouvent une espèce de fragilité drôle aussi. Et je pense que ces thèmes-là, on les aborde peut-être pas frontalement, mais franchement, parce que d'une manière irrévérencieuse, avec la poésie et l'humour, pour nous c'est la seule manière d'en parler. On pourrait pas faire des documentaires où on veut le revivre ces choses-là différemment avec le public, en rire ensemble, peut-être pour pouvoir le dépasser.
Oui, nous on prend une certaine distance pour pouvoir en rire, et encore, je pense que souvent, quand quelqu'un est fragile, je ne sais pas, quand on a une connaissance qui est l'Alzheimer, c'est à la fois triste et frustrant, mais on rit parfois, parce que les gens qui perdent mémoire, ils font des conneries qui sont drôles. Et avoir la capacité d'en rire, en tout cas au cinéma, c'est un soulagement, oui, ça ouvre un petit peu, ça donne un petit peu d'air par rapport à ces situations tragiques. Par contre, dans la vraie vie, je ne sais pas si on invite vraiment les gens à prendre cette distance-là. C'est plutôt à pouvoir l'embrasser différemment. Voilà, de s'approcher presque. Parce que quand on s'approche, on voit les détails qui sont à la fois tristes et drôles.
Oui, justement par rapport au personnage de Martha, qui est interprété par Emmanuel Riva, qui elle a interprété son dernier rôle dans un registre auquel elle ne nous avait pas habitués. Parlez-nous un petit peu de cette rencontre, de ce personnage aussi, où on a l'impression qu'il a été taillé à une mesure qu'on ne connaissait pas chez elle.
On n'avait pas elle en tête au début, on avait en tête une actrice allemande qui était presque professionnelle et aussi amateur, une danseuse au destin contrarié qui était plus âgée. Et bon, ça c'est pas fait parce qu'elle parle pas français ni anglais, mais bon. Et donc elle, on n'avait pas pensé à elle justement parce qu'on la connaissait dans le registre dramatique. Et quelqu'un nous a montré une vidéo d'elle qu'elle a fait à l'occasion des Oscars, une espèce de campagne. Et une équipe du New York Times est venue la filmer chez elle. Et elle déconnait, elle dansait, elle faisait Charlie Chaplin, elle avait une cape en plastique Superman. Et quand on a vu ça, on s'est dit, ben oui, en fait, on ne connaît pas Emmanuel Riva. Et donc on a envoyé le scénario, elle l'a aimé, on l'a rencontré. Et en fait, on a découvert quelqu'un qui était encore mieux que le personnage qu'on avait écrit, dans le sens où c'est vraiment quelqu'un qui va jusqu'au bout. Enfin, le simple fait qu'à 88 ans, elle se dit « Tiens, je vais faire du burlesque », ça c'est incroyable. On ne savait pas qu'elle aimait Keaton, on ne savait pas qu'elle était si drôle dans la vie. En fait, elle riait beaucoup, elle était espiègle, elle rigolait des gens. Dès la première fois qu'on l'a rencontrée, elle regardait les gens dans la rue, les petits chiens, les chapeaux des gens, tout ça. Ça l'amusait beaucoup. Elle était poète, elle écrivait des poésies tous les jours. C'est quelqu'un qui a eu des très hauts et des très bas. Donc elle connaissait un peu ce côté le fond du clown, ça lui parlait bien. Et puis son âge aussi. Le fait qu'elle nous fasse ce cadeau de se montrer telle qu'elle est à 88 et en connaissance de cause, parce qu'elle était très, très futée. Tout ça fait que ça a presque développé le rôle qu'on avait imaginé. Au point où on a même tourné chez elle, parce que son petit appartement, c'était vraiment l'idéal. Ça racontait toute sa vie avec... on n'a pas tout filmé, mais elle avait un tableau où elle marquait des petits bouts de poésie. Il y avait plein de petits objets, beaucoup de bouquins. Elle n'avait pas de télé, mais elle écoutait la radio sans arrêt. C'est quelqu'un qui... Toute sa passion, toute sa vie, c'était... Enfin, toute sa vie, c'était pour sa passion. Et dans ce sens-là, c'est presque Martha et Emmanuel Riva qui personnifient la transmission. Fiona, elle manque de vie. Quand elle démarre le film, Fiona, bibliothécaire, à 50 ans, elle n'a pas d'expérience de vie. Et elle n'est pas malheureuse pour autant, mais elle n'en a pas. Et puis, grâce à cet appel au secours, elle va découvrir un tas de choses, dont l'amour, et la pauvreté, et un tas de choses. Donc c'est un espèce de parcours initiatique. Merci à Emmanuel Riva.
Oui, mais ça se sent, on sent qu'elle a investi totalement le personnage, et donc elle a finalement étoffé, donné plus de substance à l'esquisse que vous aviez tracée.
Ah, tout à fait. Au départ, c'était juste un prétexte pour nous deux, pour faire nos conneries, mais nous, on sait toujours d'avance qu'à fur et à mesure que les éléments arrivent, que ce soit le décor, les autres comédiens, ils vont rendre ça plus grand que nous, on peut le faire tout seul. Et c'est pour ça aussi qu'on préfère aussi cette façon d'écrire. Ce n'est pas uniquement pour le burlesque, c'est aussi pour la poésie que toutes ces personnes et ces lieux et ces objets vont nous emporter.
Est-ce que vous avez parfois l'impression de faire figure d'ovni sur la scène cinématographique actuelle ou pas? Parce que ce cinéma est rare.
Oui, mais on est quelques ovnis, heureusement.
Il y a quelques ovnis.
On en croise dans les festivals des gens comme Ben Tamer ou des gens comme Suleiman ou...
Colérine.
Colérine.
Visite de la fanfare.
Ouais. Et ou même Coris Maki. Mais c'est rare. Alors c'est rare d'avoir vraiment des clowns, c'est-à-dire des gens qui font rire avec leur corps. Par contre, il y a des gens qui approchent le style, des réalisateurs clownesques. Là, on en voit pas mal. Mais...
Ouais, OVNI, nos premiers films, on disait vraiment que c'était des OVNI. Nous, on a l'impression qu'avec le temps, on approche plus un cinéma plus normal, mais quand même pas assez normal pour être considéré comme une comédie romantique typique.
Pourtant, il y a du romantisme dans cette histoire-là.
Oui, mais je crois que c'est notre côté attaché à la faille, au travers des gens. Montrer des choses pas d'une beauté complètement inconventionnelle, voire les moches, moche beau, qui qui fait en sorte qu'on sera toujours un petit peu à part.
Oui, vous diriez justement que votre, la poésie qui émane de vos films, vous la trouvez dans cette faille, dans ces imperfections. C'est là où vous trouvez, pas nécessairement dans des canons de beauté, si tant est que ça existe.
Oui, ben c'est justement c'est tout ce qui nous passionne, c'est ça, c'est le moment où les gens ne savent plus quoi dire ou disent la mauvaise chose au mauvais moment.
Ou qu'ils ont un bouton sur le nez, donc ça les rend humains parce que du coup, le masque parfait ne l'est plus. Il y a ce bouton qui trahit les soucis ou le régime ou le manque de sommeil ou quelque chose ou l'adolescence. Et donc, ça, tout le monde reconnaît ça. C'est là où on identifie l'autre, c'est dans ces moments de détresse, de maladresse.
Les formes de perfection, elles sont très normalisées et connues, et à la fois, on n'essaye pas d'être maladroit, hein, mais je veux dire, on est tellement perdu souvent dans la vie, et on se sent souvent trop petit dans un monde où il faut être grand, ou trop moche dans un monde où il faut être beau, ou trop lent par rapport à la rapidité. Donc je pense que ça c'est universel et les clowns ils sont là quand même pour rappeler que oui qu'on est comme ça, en fait c'est l'humain comme ça, c'est peut-être la plus belle partie de l'humanité, c'est peut-être qu'un peu comme je sais pas moi quand on découvre la pénicilline en faisant tomber un morceau de pain qui pourrit et voilà c'est un accident qui fait que donc les failles ça nous intéresse, les vieux arbres ça nous intéresse, il y a une
parce qu'il y a une histoire à raconter aussi,
ouais les formes, et puis on sait que le vieux arbre il va mourir, donc c'est touchant.
Justement, par rapport à la dimension universelle, le fait que votre cinéma soit très visuel, très, très physique, je sais qu'il a été présenté, votre film a été présenté aux États-Unis, à Londres aussi, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez l'impression que les réactions du public diffèrent, ou au contraire, que le fait que ce soit visuel, physique, ça rassemble, il y a une communion dans l'humour qui est pas nécessairement, qui se retrouve pas nécessairement dans un cinéma très dialogué, par exemple.
Oui, ça se ressemble tout à fait, parce que malgré tout, on a tous deux jambes et deux bras, on a tous des dents, des cheveux, enfin, on a des choses en commun qui fait que... Et puis, oui, finalement, on est vraiment proches les uns des autres, on se rend pas compte. Nous, quand on va en Chine, on nous avait dit « Oui, mais vous allez voir, ils vont pas rire parce que les Chinois n'ont pas le même sens du mot, ils n'ont pas un sens d'autodérision. » Nous sommes allés en Chine, et c'est pas vrai ça. Les gens, ils ont un sens d'autodérision, et ils aiment bien rigoler. Donc, toutes ces observations ont été faites par rapport à d'autres critères, sont des critères culturels, la façon dans laquelle les instruments qu'on utilise pour manger, par exemple, les choses qui sont finalement superficielles. Mais dans le fond, on se rejoint.
C'est un peu comme si le volume change d'un pays à l'autre. Il y a des gens plus réservés. J'imagine qu'en Finlande, on rigole pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, les gens rigolent fort. Mais en gros, à part quelques différences culturelles vraiment pointues, c'est pareil. Quand je disais vraiment pointu, c'est par exemple dans c'était le film L'Iceberg, Fiona, elle arrosait un chou, et puis le plan suivant, on voit que le champ de chou, il fait 4 hectares, donc ça faisait rigoler les gens, parce qu'on se disait, oh là là, elle est mal barrée. Mais quand on montrait ça en Afrique, ça faisait pas rigoler, parce que c'est comme ça qu'il faut. Donc il n'y avait pas de surprise.
Vous avez, si je m'abuse, vous avez mis plus de temps que pour les autres à faire ce film. Pour quelle raison?
C'est juste des histoires pas très intéressantes de finances.
C'est juste financier.
Oui. Mais ça nous a permis d'expérimenter une autre façon d'écrire. Au départ, comme je disais tout à l'heure, on avait envie de quelque chose d'ultra simple, très épuré, deux soirs à Paris, nous deux et un prétexte. Et le fait d'avoir tout ce temps, on a continué à affiner. On a développé une idée de suivre les personnages et de rester avec eux, et puis de revenir suivre un autre personnage et de voir les mêmes événements avec une autre perspective. Ce n'est pas quelque chose de nouveau au cinéma, mais c'est nouveau pour nous, parce qu'on préfère généralement quelque chose de plus simple. Mais on a trouvé des choses intéressantes avec ça.
Justement, par rapport au décor et par rapport à la ville de Paris, c'est pas le décor carte postale que vous avez présenté, c'est aussi
Non, ça
un décor en faille avec c'est pas l'île touristique modèle.
Non, mais à la fois tout est choisi, donc on a trouvé une poésie dans les bas-fonds, dans ces soupons. On a retrouvé finalement une espèce de bateau qui est cette île très pointue, très fine, au milieu de la Seine, et une faune aussi. Il y a des gens, quand on a vu ce lieu, il y avait des gens qui promenaient leurs chiens. D'ailleurs, on a demandé à une femme qui promenait son chien, tiens, vous voulez pas que votre chien joue? Elle a dit, ben oui. Et puis il y avait des SDF là, il y avait des amoureux. Et c'est vraiment une île au centre, tout près du centre historique. Et donc on trouvait ça intéressant pour les formes, pour le béton, pour les voies rapides. Ça parlait de Paris à la fois, ça parlait de choses importantes. Comme il y avait une espèce de chaos et une espèce de beauté dans ce chaos.
À l'image des personnages aussi, parce que ça s'appelle l'île aux cygnes, mais c'est aussi des personnages qui ont un côté insulaire, qui se rejoignent.
Ouais.
Oui, tout à fait, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. En même temps, il y a le Paris carte postale qui a
2
centimètres. et on avait le besoin de le filmer pour notre histoire, pour que notre Martha en cavale monte sur la Tour Eiffel. Je crois que je gâche rien en disant ça. Et donc, il y avait une difficulté, comment filmer ça d'une manière originale. Donc, on a beaucoup cherché pour la manière un peu spéciale et à nous de le filmer, pour que ça ne fasse pas juste des cartes postales, justement.
Outre l'écriture qui a un peu évolué par rapport à vos précédents films, qu'est-ce qui a réellement changé par rapport à ce que vous avez fait précédemment?
Il y a un détail, mais qui a son importance, c'est que c'est le premier film en numérique, on a plus la pellicule, hein, et ça nous a permis en tout cas d'être plus léger, justement. Dans le métro, là, on était là avec 4-5 personnes en petite formule, ce qui était moins cher parce que ça coûte quand même cher à Paris. Et du coup, on voit ce qu'on a, il n'y a pas besoin de gros moyens d'éclairage. Dans nos films précédents, pour avoir les couleurs qu'on aime toujours travailler, ça demandait quand même parfois de longues heures, des gros projets pour avoir. Et en numérique, ça va beaucoup plus vite. Ça permet aussi de tourner le soir, presque la nuit, sans apport d'éclairage. Et ça nous a plu. Ou bien de suivre Fiona qui déambule au début du film avec son sac à dos et qui découvre Paris, des petits détails rigolos. On en a filmé quelques-uns, on n'a pas tout gardé, mais du coup ça permet d'aller vite et de confronter.
Saisir l'instant.
Oui,
plus
justement,
plus rapidement.
Comme on disait tout à l'heure, que tout a été improvisé plutôt en amont.
L'improvisation, ça se travaille en amont.
Oui, voilà. Mais là, on avait quelques espaces de liberté, et comme le film, il s'agit fort de ce thème-là, la liberté, c'était gai de pouvoir aussi être un petit peu plus libre dans notre façon de filmer.
Alors, j'ai lu que certains de vos détracteurs disent que vous abusez des bons sentiments et que vous n'êtes pas assez cruel.
Oui, alors, je sais pas de qui tu parles.
qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça?
La noirceur et le cynisme, c'est dans l'air du temps, mais c'est surtout omniprésent dans le cinéma. Et on résiste un peu à cet air du temps, dans le sens où, on a un fond d'optimisme, mais comme beaucoup d'humains, on voit ça même dans... Je trouve quand tu vois les gens qui viennent des pays en guerre et tout, y a le rire ou l'optimisme, c'est ça qui fait que les gens survivent.
Parfois, les gens, ils confondent ce qui est pour nous une approche empathique avec le nier. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi est-ce qu'un clown est plutôt dans la sensibilité et la niaiserie, et un autre, très similaire, n'est pas dans la sensibilité? Bon, Chaplin, il est très naïf, mais il n'est pas dans la sensibilité. Pierre Etex non plus. On ne se trouve pas du tout dans ces zones non plus. Non plus. On fait très attention quand c'est trop cucu en poubelle. La cruauté, ça, c'est quelque chose... on n'est pas cynique. On n'est pas dans le cynisme. Il y a une noirceur en dessous, mais ce n'est pas quelque chose que... c'est pas quelque chose, on veut pas prendre cette route-là, le pessimisme, la noirceur, le cynisme.
Ou la parodie, on est même ou pas là-dedans, en fait. Non. Mais je pense qu'il y a peut-être une erreur, après les gens ils disent ce qu'ils veulent, mais oui. Les signes extérieurs de... Enfin, la légèreté est peut-être synonyme parfois de manque de fond, mais c'est pas vrai. On peut faire un dessin avec un trait léger et qu'il ait autant de valeur qu'un dessin didactique ou que la souffrance. Nous, on n'a pas l'impression d'être politiquement incorrect. On dit souvent on est biologiquement incorrect et on aborde le sujet d'une manière différente. C'est nos corps qu'on met en scène.
Oui, il y avait une époque, par exemple, où Coluche, il a été fort loué parce qu'il avait fait un rôle sérieux dans Tchapontin. Mais pour moi, le grand clown Coluche, qui est très profond, c'était le clown idiot, qui faisait que des conneries, qui avec son petit cri de petit cochon. C'était ça, c'était là où il parlait avec profondeur et de l'humanité. Donc il faut le voir seulement, c'est juste il faut avoir les yeux pour voir ça.
Oui, c'est de regarder le monde avec un autre regard finalement.
Oui, oui, oui. Mais bon, l'humour c'est comme ça, c'est très subjectif quelque part. Et là où quelque chose de... où un écriture dramatique, on peut se dire bon, j'ai pas compris, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. Quand ça ne fait pas rire, quand quelque chose qui est censé faire rire ne fait pas rire, c'est tout de suite raté, parce qu'il y a la mesure du rire.
Oui. On se dénude aussi quand on dit ça me fait rire. Je pense que pour par exemple, des sélectionneurs, j'ai souvent pensé à ça, de festivals, ils peuvent rigoler, mais ça leur fait peur de dire publiquement à leurs collègues, ça me fait rire. Parce que c'est souvent très de l'ordre de l'intime ce qui fait rire. Et ils n'ont pas envie de se dénuder. Donc il y a beaucoup plus de... Comment dire, l'accord est beaucoup plus facile sur des choses noires et douloureuses.
Il y a un charismatique qui va arriver bientôt, et une des répliques, c'est bon, il y a un émigré, plus qu'un émigré, c'est un déplacé syrien qui arrive en Finlande, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui demande, qui pose des questions, nationalité, âge, sexe, vous êtes mâle ou femelle? Et le Syrien dit, je ne comprends pas, je n'ai pas de sens d'humour, je ne comprends pas l'humour. Et donc, la personne qui pose la question, il dit, ah, mal. Je n'avais pas compris tout de suite, mais c'était pour dire, les hommes n'ont pas de sens d'humour. C'est 2 ans après que j'ai compris la blague et j'ai éclaté de rire. Et ouais, ça parfois...
Mais on peut rire de tout, mais on peut... il est difficile de faire rire tout le monde.
Oui, ouais, c'est non, ça. C'est pas quelque chose.
C'est un peu ça. Alors j'imagine que quand on est en train de promouvoir un film, on n'a pas encore l'esprit. On n'est pas encore en train d'échafauder de nouveaux projets. Vous avez déjà de nouvelles idées
Oui, ça tourne autour de l'insécurité, du polar. On va peut-être aller dans cette zone-là. Bien que pour l'instant, on a plein de. Enfin, on a au moins 3 ou 4 choses qui sont déjà à moitié développées. Idée, mais on ne sait pas laquelle va fleurir parce que chaque fois il manque un petit truc pour que c'est une profondeur ou une fin, ou il manque encore des pièces du puzzle, donc on n'a pas le temps. On est en train de faire tous les jours une ville là, depuis 20 jours et ça va durer jusqu'en avril, et puis on ira au Japon, au Brésil, ailleurs, présenter le film, et enfin je pense que vers le mois de juin ou juillet on pourra se mettre à écrire.
Bah, les voyages nourriront peut-être de
oui,
nouvelles idées. Alors.
Complètement. D'ailleurs, on a eu un gros accident avant-hier. On est allé à Bayonne. Je ne sais pas si vous avez le temps d'écouter. C'est 3-4 minutes. Donc, on est allé de Tours à Bayonne. Et il fallait sortir à Bordeaux pour faire un changement. On avait une heure entre les deux trains. On sort du train à Bordeaux. Il fait beau. On va manger. On monte sur le train pour aller à Bayonne. On veut sortir l'ordinateur pour continuer à travailler dans le train. Pas d'ordinateur, on l'avait oublié dans le train précédent. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on part, on ne verra plus jamais notre ordinateur sans doute. Si on sort du train, on va rater peut-être notre avant-première ce soir, mais on aura notre ordinateur. Au dernier minute, on sort du train. Envers aux objets perdus, et miracle, on voit notre ordinateur sur le bureau, mais on veut sortir nos papiers pour dire que c'est nous. On avait oublié nos papiers, nos passeports, nos tickets dans le train, qu'on vient de quitter.
Et ça, c'est du vécu.
Ça, c'est du vécu. Bon, tout a bien fini à la fin, mais bon, c'était... On a continué nos vies de clown en accompagnant nos filles.
En tout cas, je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez consacré.
Merci à toi.
C'est un plaisir.